Pour débuter notre deuxième partie d'émission, hein, c'est un spécial 25e Fantasia, quand même, c'est à célébrer, c'est tout un événement, une musique de circonstance, un classique qui se passe de présentation, et ça sera suivi d'un petit vox pop, hein, fait à proximité de deux salles de projection. Alors, notre grand constat de cette année, c'est qu'il n'y a pas de file d'attente pour la vingtaine de projections en salle, et non! Mais il y a toujours un public aussi enthousiaste. Alors, vous allez vous en rendre compte par vous-même. Alors, on se retrouve après ce Vox Pop.
Non, parce que je vais parler de la musique.
Bonjour, votre prénom?
Isabelle.
Écoutez, à l'occasion des 25 ans du Festival Fantasia, j'aimerais vous poser trois questions. Est-ce qu'il y a, il y a eu un film marquant en 25 ans que vous avez pu voir et pour quelles raisons?
Il y en a eu plusieurs, en fait. Je dirais ma première expérience à Fantasia, c'était ici. Je me souviens plus du titre du film, mais c'était un film d'horreur asiatique, coréen. Très marquant, il y avait du feu, du sang, des combats. Oui, c'était très marquant. Ça a marqué mon...
Votre imaginaire, en tout cas, c'est des images surtout qui habitent votre imaginaire.
Oui.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez exprimer à l'occasion des 25 ans du Fantasia?
Longue vie à Fantasia.
Vous appréciez?
Oui, certainement. Oui, je suis une fan depuis quelques années.
Et comment avez-vous vécu l'édition virtuelle de Fantasia l'année passée?
Très bien. J'ai trouvé que c'était un bon complément, un bon entre-deux à ce qui s'offrait déjà, à ce qui ne pouvait pas s'offrir, en fait. Mais je vous dirais que je suis contente qu'on revienne tranquillement à une programmation en salle parce que l'ambiance de la salle fait beaucoup aussi.
Je vous remercie beaucoup de ces quelques commentaires. Merci.
Ça fait plaisir.
Alors, Alexandre, merci de répondre à quelques questions. Est-ce qu'il y a un film ou un aspect du festival qui vous a marqué depuis 25 ans?
Moi, c'est surtout l'atmosphère, l'ambiance qu'il y a, les personnes qui sont des fans de ce genre de film un peu décalé, en dehors de ce qu'on peut voir d'habitude. Et c'est ça, toute l'atmosphère, tout l'environnement, et aussi le fait de pouvoir voir des petites pépites de temps en temps, de tomber sur des choses où on se dit waouh, ça c'était une super bonne idée, et ça sort de choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, quoi.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez exprimer à l'occasion des 25 ans de Fantasia? C'est un événement spécial cette année.
Bah, c'est un événement super spécial, surtout que bah on sort d'une pandémie et tout ça, et ça tombe pile pour les 25 ans. C'est un super, c'est super bien que ce genre d'événement un peu atypique puisse durer autant de temps. Et 25 ans, c'est beau, quoi. Donc oui. bravo et longue vie.
Bonjour. Est-ce qu'il y a un film ou un aspect du Festival Fantasia qui était marquant pour vous depuis 25 ans?
Nous, évidemment, moi et ma gang d'amis, c'est le Zapping Party. On attend chaque année pour cet événement-là. C'est tout le temps l'événement pour lequel on prend des billets pour sûr. Puis après ça, on regarde qu'est-ce qu'il y a autour. Mais c'est vraiment Zapping Party qui est... c'est le format, le fait que ce soit qu'on retrouve les affaires les plus bizarres qu'on a jamais vues de notre vie. Des vidéoclips, des vieilles pubs. Puis après ça, entremêlé de short films. Donc le concept est vraiment attrayant. Puis il y en a pour tous les goûts.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez exprimer à l'occasion des 25 ans de Fantasia? C'est tout un événement.
En effet, merci beaucoup pour tout l'effort qui est mis. C'est super apprécié. Puis c'est un beau moment pour se retrouver avec la gang à chaque année. Fait que merci beaucoup.
Merci beaucoup pour votre commentaire. Quel est votre prénom?
Mathieu.
Merci. Bonjour, votre prénom?
Oui, Jean-François.
Est-ce qu'il y a un aspect particulier ou un film qui a été marquant pour vous depuis 25 ans?
C'est sûr, moi j'ai beaucoup aimé Too Young to Die, que je pense que ça date d'il y a à peu près 4 ans, qui a probablement été mon numéro 1 depuis le temps. Parce que moi j'aime beaucoup aussi le côté évidemment plus asiatique. Tous les films qu'on voit pas, mettons Paramount et les cinémas traditionnels.
Ah, je vous comprends, oui.
Fait qu'on peut explorer enfin des nouveautés qui n'ont pas la même formule que tout le temps qu'est-ce que Hollywood nous offre. Fait que donc on a une belle preuve ici à Fantasia que le cinéma a encore des nouvelles idées à exploiter.
Qu'est-ce que vous souhaiteriez exprimer à l'occasion des 25 ans de Festival Fantasia? C'est tout un événement.
Oui, en effet. Je vais dans le sens de mon ami. C'est comme on apprécie vraiment le travail de tous les bénévoles, de tous les organisateurs. On voit vraiment qu'il y a une vraie recherche, puis que c'est vraiment qu'ils ont chacun un département comme animation, que ce soit action, que ce soit peu importe. On voit vraiment qu'il y a vraiment un beau travail de recherche, puis ça nous offre des cadeaux à chaque année depuis 25 ans. On est vraiment contents.
On aime Fantasia et je suis ravie de pouvoir joindre Léna Guillot à l'instant. Léna?
Bonjour, Léna, comment allez-vous?
Oui, Léna, est-ce que tu aimes Fantasia? Est-ce que tu as quelque chose à dire pour les 25 ans de Fantasia?
D'abord, premièrement, je suis très contente qu'on soit rendu à 25 ans.
Oui.
Ça nous permet de pouvoir en parler aujourd'hui.
Oui.
Moi, j'aime beaucoup la culture asiatique parce que c'est de là que ça part, Fantasia. Ça voulait dire les films fantastiques d'Asie comme le nom de leur festival.
Oui.
Et en effet, on en a vu plusieurs à travers les années qu'on voit pas ailleurs. On les voit pas ailleurs.
C'est ça. Alors, tout à fait. Alors, ma chère Léna, avant qu'on parle, parce que tu as quand même 5 films à nous recommander, c'est quelque chose. Merci de les avoir vus pour nous. Si on parlait un petit peu brièvement du festival dans son ensemble, je pense qu'il y a un petit peu moins de diversité de films, hein, cette année.
Ben c'est ça, il y a certains genres de films qu'on n'a pas retrouvés cette année.
Oui.
En discutant entre nous, on a un petit peu blâmé la pandémie parce que les artistes avaient pas le droit finalement de se regrouper pour travailler. Mais on n'a pas cette année un film extraordinaire.
Non, hein, les coups de cœur sont pas nombreux.
L'historique asiatique, comme les beaux costumes avec les beaux les temples, les combats, l'épée. Moi, j'adore ça!
Oui, les films historiques sont absents.
Ça manque cette année-là.
Oui, ces films historiques que tu aimes tant sont absents, Léna, hein? C'est ça?
C'est ça.
Peut-être probablement dû à la pandémie. Puis moi, j'ai eu un petit peu moins de coups de cœur cette année, hein? J'ai moins de coups de cœur que par les années passées.
Ben c'est vraiment différent.
Oui.
Mais on peut enfin quand même blâmer certaines la pandémie apprécier le fait qu'il y a des courageux qui se sont rendus à terme parce que ça nous permet quand même d'en voir et d'en apprécier quelques-uns.
Tout à fait, il y a une vingtaine de projections en salle. Et il y a aussi un nouveau volet cette semaine, cette année, puis c'est une édition hybride, hein, tu peux en salle, sur Internet. Il y a un nouveau volet de films érotiques qui est assez particulier, hein, Léna?
Ben justement, puis j'ai regardé hier les quelques films qui m'avaient manqué dans le lot.
Oui.
Alors, En effet, après avoir regardé les films qui m'avaient manqué, je suis un peu d'accord avec toi que
oui.
Fruit, c'est le coup de cœur de la série.
Absolument, oui.
On sait pas vraiment où ça va tout mener, là.
Oui.
Mais au bout de la ligne, wow!
Non, écoute, ce film-là, c'est un, on est hypnotisé, rien de moins, hypnotisé. Écoute, bon, avant que je parle des raisons pour lesquelles je l'ai tant aimé, là, mais brièvement, là, mais le volet quand même, je trouve que le volet est un petit peu trop de, c'est des films, les films du volet érotique cette année sont un peu trop marginaux, un peu trop violents, parfois de mauvais goût, hein. Moi, c'est ce que j'ai trouvé, mais Fruit, c'est
entre guillemets, érotique, mais c'est pas érotique parce que c'est plus comme une exploration de contenu sexuel dans la conscience.
C'est ça.
C'est parce que moi, j'interprète érotique comme quelque chose qui te donne le désir de faire l'amour, mais ça te donne pas de désir comme tel.
Non, tout à fait. Et pour ma part, écoute, Léna, écoute, je me suis dit, c'est un nouveau volet. C'est ça, pour moi, je me suis dit, c'est un nouveau volet, je vais le regarder au complet, et je l'ai fait. Mais je n'ai retenu que deux bons films, un très, très court film, un court-métrage, mais très intense, de Yvan Lee, un film qui commence par une orgie épileptique qui s'intensifie jusqu'au délire, l'anéantissement, un rythme vertigineux. Fort heureusement que ça se déroule dans le merveilleux monde des fruits. Le film va de représentation en représentation, comme une véritable critique de la société hypersexualisée dans laquelle nous vivons, qui se donne en spectacle. Hein? Je trouve que c'est intéressant. Il y a deux lectures à ce petit court-métrage, mais ça vaut la peine.
À la fin, il est extraordinaire aussi.
Oui, la finale aussi. Vas-y.
On ne peut pas le dire parce que...
Non, faut pas laisser un effet de surprise.
Il reste des surprises avec la fin. Parce que là, on embarque, on suit l'action. Boum, 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 boum.
C'est ça. Et aux antipodes du film d'animation, ben, il y a Hold Me Tight, un court-métrage réalisé par Mélanie Robert Tournard de Belgique-France, qui est absolument magnifique. C'est un film sans dialogue qui met en scène deux créatures séduisantes, mi-humaines, mi-animales, qui ça donne une parade nuptiale dangereuse. Alors, c'est un film d'une beauté féroce et d'une poésie envoûtante. Qu'en dis-tu, Léna?
Oui, c'est un très beau film d'animation avec des belles couleurs et tout ça. Je suis d'accord avec toi.
Bon.
Donc, à quelque part, on a les deux mêmes coups de cœur dans cette série qui est le volet érotique. Malgré que j'ai regardé celui qui s'appelle avec le mot humain dedans, là, comment que ça s'appelle le titre?
Ah oui. Ah oh, mon Dieu, oui, je l'ai en quelque part. Écoute, c'est ça, Some Kind of Humanity.
Oui, je l'ai trouvé plus humoristique que toi, je crois. Oui,
c'est
parce qu'à la fin, le gars, après avoir été exposé à tout ça, ayant conclu qu'il est bien comme gars ordinaire, à vous de découvrir, cher public, ce que je veux dire par là.
Ben, au moins, il y a une bonne dose d'humour. Alors, Léna, parle-nous de tes 5 films que tu vas sélectionner, que tu nous recommandes.
Bon, alors, moi, je suis attirée par le volet asiatique, comme je vous disais.
Oui.
Donc, j'ai été attirée par le film Seabuck.
Oui.
Et parce que le visuel était très beau. C'est un film qui a un beau visuel, un beau tempo, et c'est l'histoire d'un homme qui est en train de mourir du cancer du cerveau, qui est confronté avec un autre homme que lui est un clone qui est en train de développer la vie éternelle, l'immortalité. Donc, en même temps, puisque le clone est un projet comme sous-militaire, bien sûr, parce qu'il faut qu'il y ait un peu d'action dans les films, n'est-ce pas? Alors, il y a quelqu'un qui veut détruire le clone, puis il y a quelqu'un qui veut protéger le clone. Donc, celui qui a le cancer du cerveau, qui est un ancien policier, pas engagé pour protéger le clone, parce que, bien sûr, c'est le meilleur au monde.
Oui.
Mais ça se déroule bien. C'est un film qui est plus philosophique qu'un film d'action. Et puis, ça va vous permettre, en suivant l'action du film puis le dénouement, de penser vous-même à ce que vous pensez de sujet d'immortalité et tout ça. puisque ce sont des questions qui ont animé l'art sous toutes ses formes, depuis que l'art sous toutes ses formes existe, hein, les humains ont commencé à se poser la question de comment confronter la mort, puis comment ça se fait qu'on peut pas être immortel, coudon?
Ben c'est ça. Alors, Léna, c'est une recommandation que tu nous fais, mais toi, il y a un film vraiment que tu as adoré, tu me dis Indemnité, hein? Que tu qualifies d'excellent.
Le film m'a pris vraiment par surprise.
Oui.
Parce que, c'est un film qui vient de l'Afrique du Sud.
Oui.
Qui a été tourné à Cape Town. Ça y donne justement la vue de Cape Town donne une atmosphère différente à un film d'action qu'on connaît de ceux qui sont tournés en Amérique. Donc, les personnages parlent un mélange d'anglais et d'africaine. Ça, c'est la langue qui a été développée en Afrique du Sud par la colonisation. Juste ça, ça le donnait un élément intéressant. Alors, c'est un science-fiction, film d'action, thriller. Et puis, quand je vous dis tout ça, ça manque pas la shot. Ça livre la marchandise au bout.
Ah, mon Dieu, oui, j'aimerais le voir.
T'as pas une seule minute de répit quand l'action commence. Donc, on a un pompier qui a plusieurs problèmes psychologiques parce qu'il souffre de PTSD. Pour se rendre compte avec le temps qu'il est un cobaye dans une vaste expérimentation encore là avec les gars de la guerre, là, les guerriers qui veulent créer d'autres guerriers qui sont idems contre la prosécution, parce qu'ils veulent les gouvernementaux qui sont en croche, là, ils veulent les envoyer en mission secrète, puis sans que ça reflète sur eux, donc des missions secrètes comme assassination, etc. Sauf bien sûr que le héros de notre histoire, ça marche pas sur lui, il commence à comprendre qu'est-ce qui se passe.
Il s'attaque à toute une organisation à grande échelle.
Tué par l'équipe des méchants. Vous voyez ce que je veux dire? Ça ne lâche pas jusqu'à la dernière minute.
Eh bien, de quoi nous contenter?
C'est un film qui est très bien fait. J'ai été bien épatée. Les comédiens sont excellents. Le tempo du film est excellent.
Alors,
très recommandé si vous avez besoin d'un petit thriller, là.
De quoi nous contenter? Alors, toi, Léna, tu as aimé aussi « Giving Birth to the Butterfly », hein?
C'est ça. Puis là, la raison que j'ai choisi de parler de ce film-là, c'est parce que vu qu'on est une émission qui met l'accent beaucoup sur l'art visuel, ce que j'ai remarqué en écoutant le film, c'est qu'il reproduit dans sa scénographie des clins d'œil à des toiles célèbres.
Mm-hmm.
On a un clin d'œil à un Magritte, la toile qu'il y a un personnage. Ben, il y en a deux toiles comme ça, mais il y en a peut-être plus que je connais pas parce qu'il y a un grand répertoire. Donc, dans ce film-là, je reconnais tout de suite le personnage de Magritte, celui qui a une toile sur la tête, puis là, il y a son chapeau par-dessus. Puis ça va vous dire quelque chose si vous avez un petit flashback des Magritte. Puis tout d'un coup, à la fin du film, on a encore une séquence qui évoque les deux Frida. C'est d'ailleurs la toile
qui est
reconnue comme étant le grand chef-d'œuvre de Frida Kahlo. C'est quand elle est assise à côté d'elle-même, mais elle a deux versions d'elle-même. Donc, on voit ça. C'est l'histoire d'une femme qui doit résoudre un dilemme dans son quotidien, mais là, tranquillement, pas vite, on s'aperçoit qu'elle est vraiment loin de son quotidien, puis que dans le fond, elle est en train de vivre dans un rêve. Donc, c'est un film qui est très doux. Il n'y a aucune violence là-dedans. C'est très doux. Ça évolue en douceur. Mais si vous aimez l'art visuel, puis que vous connaissez l'histoire de l'art, c'est là que vous allez aimer ce film-là. Qui nous dit finalement que la femme, vous devez sans doute connaître le fameux proverbe de Lao Tse-Tu, est-ce que je suis le papillon qui rêve ou est-ce que c'est moi qui rêve au papillon?
Oh, c'est intéressant.
C'est ça à la fin, donner naissance au papillon, c'est que là, tu te demandes, étais-tu dans un rêve dès le début? Tu comprends?
Oui, c'est très intéressant, Léna. Alors, Léna, il nous reste un petit 5 minutes. Si tu nous parlais de ton film coup de cœur, je pense, c'est ça, Toshikon, hein?
Oui, justement. Moi, j'adore.
Et moi, j'en ai deux
aussi. On adore
aussi.
Le festival FIFA, qui est sur l'histoire de l'art. Et puis, un des premiers films que j'ai regardé, ça s'appelle Satoshi Kon, l'illusionniste.
Oui.
C'est donc un ils appellent ça des Maga Kings. C'est des grands maîtres du Maga, mais qui, lui, s'en va dans l'animation.
Oui.
Donc, il fait des films animés de Maga. Puis, sa méthode de travail a révolutionné l'art de film Maga. Puis d'ailleurs, si vous allez sur mon blog de Léna Guillot Paradox, mais vous pouvez googler juste Léna Guillot si vous voulez, je vous ai attaché un visionnement gratuit au film Paprika,
qui
est d'ailleurs au complet
merci.
Sur le lien que je vous ai trouvé, qui illustre parfaitement pourquoi Satoshi Kon a tant révolutionné son domaine de cinéma animé de Maga. Donc, ça suit. Malheureusement, ça arrive tellement souvent avec les génies. Il est décédé vraiment jeune, puis très rapidement avec un cancer très rapide. Donc, c'est dommage. On peut pas voir jusqu'où il aurait été, mais au moins on a vu qu'est-ce qu'il a fait dans son vivant. Donc, c'est une de mes recommandations.
Oui, et lui, il fait dans le film d'animation pour adultes, alors ce qui n'est pas fréquent. Et il a eu sa première du film Perfect Blue dans le cadre de Fantasia. Alors, c'est pour ça qu'il est tellement important pour le festival. Alors, c'est important
exactement,
qu'on en parle dans le cadre des 25e.
Il était venu à Montréal. Donc, c'est vraiment un beau coup de cœur.
Alors, Léna, il ne me reste que 2 minutes pour parler seulement de 2 films. On the Third Day. Alors, c'est un film, c'est un thriller, un film d'horreur fantastique du réalisateur argentin Daniel de la Vega, qui co-scénarise le film. D'ailleurs, c'est basé sur un roman de Gonzalo Ventura qui co-scénarise ce film-là. Alors, l'histoire est celle d'une mère qui fuit son ex-mari violent avec son enfant, survient un accident sur la route qui lui fait perdre la mémoire momentanément. Alors que son enfant disparaît, la mère, les services de police ainsi que d'autres intervenants tentent de résolver cette mystérieuse disparition et plusieurs meurtres qui arrivent. Et à cette galerie de personnages s'ajoute un tueur fou. Alors, il y en a vraiment pour tous les goûts. Et tout d'abord, je voudrais vous dire que j'aime le cinéma d'horreur hispanophone qui n'hésite pas à explorer la grande noirceur et la part d'ombre en nous. Film apprécié en raison de son intensité, aucun temps mort de ses nombreux rebondissements. Le réalisateur aussi recrée une atmosphère des plus étranges qui fait que l'angoisse monte jusqu'à la grande finale que je ne vous dévoilerai pas. Jeu d'acteur excellent et je prévois que ça sortira en salle. C'est la projection, il y aura une projection virtuelle donc le 23 août 19h30. Et pour terminer, il y a The Writers. Alors, c'est réalisé par...
Je l'ai regardé ce matin, d'ailleurs.
Est-ce que tu l'apprécies?
Vraiment, là, pour un film canadien puis tout ça, pas que je veux dénigrer l'œuvre canadienne, excellent!
Oh mon Dieu!
Excellent!
Alors, je vais en parler brièvement. Réalisé par Mac O'Brien. Et c'est un film d'horreur psychologique occulte qui se déroule à Terre-Neuve. Un ex-prêtre et son épouse sont accablés par la mort de leur jeune enfant. Leur deuil est interrompu par l'arrivée d'un inconnu blessé. Alors, c'est vraiment une qualité de film, je pense, qui se rapproche de celle de l'exorcisme. Et le jeu des acteurs est excellent. Il y a la finale est palpitante. Les paysages tristes et mornes de Terre-Neuve ajoutent à la déroute des personnages. Alors, plusieurs ingrédients qui me permettent de prédire que ce film deviendra un classique du cinéma canadien. Et c'est fin de semaine, dimanche, le 18 août. Dimanche le 15 août à 21h30 qu'on peut aller voir ce film-là à l'Impérial, suivi d'une rencontre avec le réalisateur et les acteurs. Et il y aura une projection virtuelle le 18 août à 21h. Alors, ça fait le tour de nos recommandations. Léna, merci beaucoup. Merci
avec
beaucoup
plaisir,
de ta participation.
Chantal.
Alors, je sais que tu poursuis. Alors, le Festival Fantasia se poursuit jusqu'au 25 août. Bonne continuation du Festival Fantasia et bonne fin de semaine.
Merci, toi aussi. Merci, au revoir.
Au revoir, Léna. Merci beaucoup de nous avoir commenté tes films.